Vous écoutez, on lit pour vous.
Nouveau guide alimentaire américain, on fait un pas 25 ans en arrière. Un texte de Philippe Robitaille-Groux, publié le 11 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada. Guide spectacle, aberrant, à l'encontre du consensus scientifique, des experts ne mâchent pas leurs mots après la publication, cette semaine, des nouvelles recommandations alimentaires américaines. Si certains y voient quelques avancées, bon nombre d'entre eux s'entendent pour dire qu'il s'agit avant tout d'un grand pas en arrière. C'est mercredi que le secrétaire à la Santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., a jeté un pavé dans la mare. « Manger de vrais aliments », a-t-il scandé en présentant ses directives qui influenceront pour les 5 prochaines années le choix des aliments servis dans les écoles, les hôpitaux et les prisons du pays, ainsi qu'au titre des programmes d'aide fédéraux, en plus de guider la population. Dès la première page du document, une image marque un contraste clair par rapport aux recommandations précédentes et à celles du Canada. On y voit une pyramide inversée. Au sommet, trônent des dessins de côtes de bœuf, de fromage, de poulet, de cartons de lait. Et les grains entiers dans tout cela? Seulement au bas de la pyramide. Spectaculaire. C'est le premier mot qui vient à l'esprit de la nutritionniste Stéphanie Côté pour décrire ce guide. Spectaculaire, oui, mais pas dans le bon sens du terme. Quand j'ai vu réapparaître la pyramide alimentaire, je me suis dit qu'on faisait un pas 25 ans en arrière aux États-Unis. Parce que, visuellement, on a bien compris avec le temps que ce n'est pas la forme de recommandation qui aide les gens à manger et, concrètement, qui les aide à savoir quoi mettre dans leur assiette, fait-elle valoir. Le document, de son avis, est vraiment un guide spectacle, plus idéologique que scientifique. En fouillant les recommandations de M. Trump et son équipe, on se rend bien compte que la science n'a pas suivi. On dirait que ça met de l'avant des idéologies personnelles plus que les années et les décennies d'évidence scientifique qu'on a accumulées. Le grand retour de la viande rouge. L'un des points de rupture majeurs avec les directives précédentes concerne les viandes rouges. Après des années de recommandations à limiter la consommation de ces aliments, les Américains sont dorénavant encouragés à en manger. Le document suggère même, pour cuisiner ou ajouter des matières grasses au repas, des options comme le beurre ou le suif de bœuf, malgré l'absence de preuves scientifiques à l'appui de ces conseils. Comme la plupart des autres experts, j'ai trouvé ça complètement aberrant de revenir à la viande rouge comme élément important dans la diète. On sait depuis plus d'une quinzaine d'années que c'est préférable de limiter notre consommation de viande rouge, déplore Martin Junot, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Un apport élevé en viande rouge est associé à une hausse importante du risque de maladies cardiovasculaires qui représente la principale cause de décès à l'échelle mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les protéines animales contiennent des acides aminés qui sont pro-inflammatoires et qui favorise le développement de l'athérosclérose. Et à cause de l'inflammation, différentes maladies chroniques apparaissent, incluant des cancers et le vieillissement cellulaire, explique M. Junot. Sans compter les effets environnementaux néfastes. On attribue à l'élevage environ 14,5% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Si on regarde les données du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, on est à l'opposé des recommandations américaines, fait valoir la nutritionniste Catherine Lefebvre en entrevue samedi à l'émission « Les faits d'abord ». Dans plusieurs guides alimentaires dans le monde, qu'on soit en Occident, en Asie ou en Afrique, on n'exclut pas la viande. Mais là, on est complètement ailleurs, renchérit-elle. Des protéines? Mais quelles protéines? Le nouveau guide alimentaire s'inscrit dans la mouvance « Make America Healthy Again », redonner sa santé à l'Amérique, promu par Robert F. Kennedy Jr. L'idée est notamment de valoriser la consommation de protéines. Le document recommande de consommer entre 1,2 et 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, une hausse importante par rapport aux directives antérieures. Le gouvernement américain s'attaque ainsi à un problème qui n'existe pas, de l'avis du cardiologue Martin Junot. La plupart des Nord-Américains, Canadiens inclus, consomment, vous allez être surpris peut-être, trop de protéines. 25 % des Canadiens consomment le double de ce qui est recommandé d'un point de vue de grammes par kilo. D'autant plus que les recommandations américaines n'établissent pas de distinction entre les protéines animales et végétales. On devrait faire une place plus importante aux protéines végétales dans notre alimentation. Ça, c'est super bien démontré, fait remarquer de son côté la nutritionniste Stéphanie Côté. Les protéines, en général, sont très importantes. Mais c'est une combinaison d'animal et de végétal qui apporte le plus grand bienfait et la plus grande variété de nutriments parce que les protéines végétales viennent avec des fibres alimentaires, notamment. Et ça, ça manque cruellement dans l'assiette des Nord-Américains, poursuit-elle. Assaut des aliments ultra-transformés. L'administration américaine n'a cependant pas tout faux dans ses nouvelles directives, selon des spécialistes du milieu. Parmi les passages les plus positivement accueillis, on trouve ceux qui concernent les aliments ultra-transformés que Robert F. Kennedy Jr. promet depuis des mois de combattre. Le document recommande d'éviter les aliments hautement transformés emballés, préparés, prêts à consommer, salés ou sucrés, tels que les chips, les biscuits et les bonbons. L'Association médicale américaine a, de ce fait, salué par voie de communiqué des directives qui affirment que l'alimentation est un remède et fournissent des indications claires que patients et médecins peuvent suivre pour améliorer la santé. Ce n'est pas juste qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de gras dans les aliments ultra-transformés, mais il y a aussi des additifs qui sont néfastes pour la santé. Il y a des émulsifiants, il y a des édulcorants qui ne sont pas très bons pour la santé, pour le microbiome notamment, précise Martin Junot. Aux États-Unis, les aliments ultra-transformés représentaient 53 % des calories consommées par les adultes d'août 2021 à 2023, selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Au Canada, ils représentaient 46 % de l'apport énergétique quotidien selon les données de 2015. S'il est important de moins promouvoir des aliments riches en sucre, en sel et contenant divers additifs, Catherine Lefebvre constate néanmoins un décalage entre le discours américain et la réalité de la population. « C'est bien beau, mais ce n'est pas accessible à tous », constate-t-elle. Puis on voit les données d'insécurité alimentaire, on voit les données socio-économiques, et en ce moment, ça ne va pas bien. Il faut avoir le temps de cuisiner. Il faut avoir les outils nécessaires dans sa cuisine pour pouvoir cuisiner davantage. Si on a deux emplois à temps plein pour peut-être arriver à ses fins, il ne reste plus beaucoup de temps, ajoute-t-elle. Des effets au Canada? Au fil du temps, des recommandations en matière d'alimentation chez nos voisins du Sud ont eu tendance à influencer celles au Canada. Devons-nous prévoir, dans le cas présent, des effets sur les politiques alimentaires canadiennes? Je n'ai pas l'impression, estime Stéphanie Côté, parce que le Guide alimentaire canadien, dans sa dernière version, en 2019, a complètement écarté le lobby des recommandations. Il est fondé sur les plus récentes découvertes scientifiques. Martin Junot est du même avis. Les effets qu'il entrevoit de notre côté de la frontière risquent plutôt de se manifester par l'entremise des réseaux sociaux. Il y a tout un mouvement lié au masculinisme qui encourage à manger beaucoup de protéines pour avoir des muscles, ce qui est une aberration. Si vous faites de la musculation, vous pouvez être végane et gagner des concours, martèle-t-il. Dans les réseaux sociaux, surtout les jeunes hommes, ça va les conforter dans leur croyance qu'il faut manger de la viande pour avoir des muscles et pour être un vrai homme. Mais à part cette frange-là de la population, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'impact au Canada, conclut le cardiologue. C'était « Nouveau guide alimentaire américain, on fait un pas 25 ans en arrière ». Un texte de Philippe Robitaille-Groux, publié le 11 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada.
Un monde sans schizophrénie? Un texte de Maxence Elvalade publié le 23 décembre 2025 dans Le Devoir. On continue d'entretenir le fantasme du psychotique dangereux et dérangeant qu'il vaudrait mieux faire disparaître. La Fondation Douglas a lancé une campagne de financement pour la recherche en santé mentale. Si cette campagne a déjà fait l'objet de nombreuses critiques en raison du choix controversé de sa porte-parole, Marie-Pierre Morin, nous souhaitons, à titre de travailleurs qui œuvrent au quotidien avec des personnes schizophrènes, remettre en question le rêve d'un monde sans schizophrénie qu'elle met de l'avant. Un tel monde est-il souhaitable? Pour se réaliser, que nécessite ce rêve? Le Douglas semble supposer une équivalence entre la schizophrénie et les maladies pouvant ultimement être éradiquées. Un monde sans schizophrénie est donc sans schizophrène. Est-il aussi désirable qu'un monde sans cancer? Si Douglas rêve d'un tel monde où la psychopharmacologie est hégémonique, nous désirons plutôt un monde qui accueille la schizophrénie et qui offre des conditions de vie dignes aux personnes qui en sont affectées. État des lieux. Si elle se présente sous le couvert d'un discours voulant abolir le risque d'une certaine violence liée à la schizophrénie, la campagne correspond malheureusement à une psychiatrie où la médicalisation s'est suppléée aux soins plutôt que de s'additionner à ceux-ci. Il s'agit d'une psychiatrie que de nombreuses personnes schizophrènes avec qui je travaille me décrivent comme violente, voire souvent traumatisante. Nous assistons au prolongement du mouvement de désinstitutionnalisation psychiatrique qui, au Québec, s'est entamé dans les années 1960. Initialement, la fermeture des asiles visait une prise en charge communautaire et médicale de la maladie mentale. Or, la psychiatrie étant le parent pauvre de la médecine, elle est la première à subir les effets des coupes en santé. On n'a de cesse de répéter que les besoins en matière de troubles de santé mentale sévères sont grandissants, mais on mène une guerre aux lieux de soins, y compris au sein même des unités psychiatriques. On couple la fermeture de lits au sous-financement des groupes communautaires présentés dans une certaine mesure comme devant prendre la relève. Au même moment, des sommes mirobolantes sont investies dans la recherche biopharmacologique qui permettrait hypothétiquement d'expédier des patients contenus par la médication au sein de la communauté, idéalement sans accompagnement et donc sans coût supplémentaire. Or, une constante demeure. Ne leur accordant plus d'espace et de temps, on ne s'intéresse pas à la vie des personnes schizophrènes, à leur façon d'être, à leurs symptômes et à leurs récits. Après leur évaluation initiale, ils auront, pour les plus chanceux, de brefs rendez-vous avec des psychiatres, des suivis irréguliers avec des travailleurs sociaux qui sont au bout du rouleau. La conclusion de la désinstitutionnalisation et de la campagne du Douglas, qui en est la suite logique, c'est qu'on n'écoute pas les schizophrènes. On en vient à souhaiter leur disparition par un contrôle serré par l'entremise de la contention médicamenteuse ou par leur enfermement. Nulle part est-il question d'apprendre à vivre avec la schizophrénie, et partout il est question de gérer les risques qui en découlent lorsqu'elle n'est pas accueillie. Manière. Le diagnostic, entendu comme une manière de saisir les failles existentielles qui affectent une personne et d'accompagner celle-ci, permet de s'orienter cliniquement. Il s'avère essentiel afin de comprendre à qui on a affaire. Néanmoins, un diagnostic qui cherche à identifier le gène de la schizophrénie pour l'abolir relève du désir d'eugénisme. Quant à lui, un diagnostic qui souhaite taire le symptôme par des molécules plus performantes témoigne de la substitution des soins par la gestion du risque auquel nous faisons face. On désigne d'ailleurs comme antipsychotiques les médicaments que l'on appelait encore récemment des neuroleptiques. Ce glissement témoigne de cette volonté déplorable de faire disparaître la schizophrénie, volonté qui contribue à la marginalisation des personnes schizophrènes. Le symptôme est une solution trouvée par un sujet afin de composer avec son existence. Certes, cette solution implique son lot d'embûches. Néanmoins, chercher à l'abolir relève d'une démarche qui n'écoute pas, mais qui dicte. À notre connaissance, le Douglas n'a d'ailleurs fait intervenir aucune personne schizophrène dans sa campagne publicitaire. on continue ainsi d'entretenir le fantasme du psychotique dangereux et dérangeant qu'il vaudrait mieux faire disparaître. Plutôt que de mener une guerre aux schizophrènes, ne serait-il pas désirable de financer à juste titre des lieux de vie où il est possible de socialiser et de s'exprimer? Ne serait-il pas possible de rendre l'hôpital hospitalier et de faire preuve d'hospitalité hors de son enceinte? Plutôt que de rêver à un monde sans schizophrénie, nous chérissons le rêve d'accueillir les manières d'être dans leur diversité. Si l'on semble vouloir conformer la folie à la norme, un rappel s'impose. Cette norme, par définition, ne correspond à personne et peut faire de nous de violents normopathes, particulièrement à l'égard des défis liés à la santé mentale. C'était « Un monde sans schizophrénie », un texte de Maxence Elvalade, publié le 23 décembre 2025 dans Le Devoir.
Le presque nonagénaire qui nous brasse la cage. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 31 décembre 2025 dans La Presse. Il est presque nonagénaire et tout à fait en colère. David Suzuki, le plus célèbre des environnementalistes du pays, est notamment choqué par le nouvel accord entre Ottawa et l'Alberta. Selon lui, à l'avenir, au lieu d'envisager un nouvel oléoduc, le gouvernement fédéral devrait déclarer l'urgence climatique. Un conseil. Si vous avez besoin de réconfort, David Suzuki n'est pas la personne vers qui vous devriez vous tourner ces jours-ci. À la veille de ses 90 ans, il atteindra cet âge vénérable en mars 2026, le célèbre environnementaliste semble dans une forme resplendissante. Mais s'il a une très bonne mine, on ne peut pas en dire autant de son moral. Sa colère sourde se devine à la teneur de ses propos et à la façon dont il hausse parfois le ton. En discutant avec lui, on comprend rapidement que son désarroi est lié en gros à trois constats. 1. L'impact actuel des changements climatiques, ça le sidère. 2. Les conséquences anticipées, elle l'effraie. 3. La faiblesse de notre lutte contre ce phénomène, elle le désespère. Des changements ahurissants se produisent déjà dans nos forêts et nos océans. C'est choquant. Par exemple, sur la côte ouest, les cèdres et les arbousiers, qui sont les arbres emblématiques, sont en train de mourir, ne pouvant tolérer cette légère modification de la température, observe-t-il. Dieu seul sait ce qui nous attend, s'exclame-t-il du même souffle. Car si la tendance se maintient, l'avenir, rappelle-t-il, s'annonce sombre. La science est alarmante, selon lui. En 2018, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est la source la plus fiable, mais qui est très conservatrice, car chaque gouvernement, y compris l'Arabie Saoudite ou la Russie, doit valider les rapports, a publié un rapport spécial. On y disait qu'il fallait maintenir la température sous 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Au-delà, c'est le chaos. Nous avons atteint ce seuil de 1,5 degré cette année. Nous sommes à 1,5 chaque mois. Que nous réserve l'avenir si notre trajectoire nous mène à 3 degrés? La réponse est que nous n'en avons aucune idée. J'ai interviewé David Suzuki en cette fin d'année parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre en 2025. Il a affirmé, lors d'une sortie publique l'été dernier au sujet des changements climatiques, qu'il était trop tard et que la réélection de Donald Trump avait été pour lui l'équivalent d'un coup de poignard en plein cœur. Dans la foulée de ce coup d'éclat, il a cependant rapidement précisé, entre autres dans une entrevue accordée à notre collègue Éric-Pierre Champagne, qu'il n'avait pas perdu espoir. Alors que l'heure est au bilan de fin d'année et aux prédictions pour les mois à venir, je me demandais où en était le militant écologiste le plus connu au Canada dans ses réflexions. Par exemple, quel message souhaite-t-il transmettre aux jeunes à qui on lègue la planète dans un piètre état ? Quand mes filles sont tombées enceintes, ma réaction a été « Mon Dieu, vous savez ce que dit la science sur ce qui nous attend ? Mettre au monde un enfant de plus, maintenant, c'est un engagement envers l'avenir », raconte-t-il. Ses enfants sont manifestement plus optimistes que lui. Leur réponse a été intéressante. Mon aîné a dit « Papa, c'est mon engagement envers la planète. En ayant un enfant, je vais me battre comme une folle pour son avenir et pour qu'on change de cap. » La plus jeune a dit « Papa, ça n'a pas à se terminer comme tu le prévois. » Nous devons travailler pour une fin différente. Je ne peux donner tort ni à l'une ni à l'autre, ajoute le scientifique de 89 ans. En continuant à l'interroger sur les jeunes d'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils s'inquiètent également du virage marqué de certains d'entre eux vers le conservatisme ainsi que des ravages faits chez eux par la désinformation. Les algorithmes des réseaux sociaux mettent notamment en valeur le contenu clivant produit par des personnalités de droite ultra-populaires comme le psychologue Jordan Peterson. Ce gars, qui a énormément d'abonnés, est un charlatan pur et simple. Mais il fait vibrer une corde chez les jeunes hommes et c'est assez effrayant, lance David Suzuki. Jordan Peterson qualifie les changements climatiques de canular. Non mais franchement. Et vous avez le président de la nation la plus puissante et la plus riche du monde qui non seulement qualifie les changements climatiques de canular ou d'arnaque, mais ne prend même pas la peine de se rendre à la COP30, conférence des Nations Unies, en novembre 2025, au Brésil, sur le climat. Ah oui, vraiment, il en a gros sur le cœur, David Suzuki. Mais vous savez ce qui le réconforte? Le Québec. Oui, oui, le Québec. À la toute fin d'une visioconférence de 30 minutes, j'ai voulu savoir si, à ses yeux, la province était une société distincte au Canada sur le plan environnemental. Aussitôt, les compliments ont fusé. « Je pense, a-t-il dit, que c'est grâce à votre société distincte que le Canada a toujours été un phare pour les environnementalistes comme moi. Quand nous étions à Kyoto en 1997, année de l'adoption du traité international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'Alberta nous tirait dessus à boulets rouges, mais le Québec était là pour dire « nous sommes avec vous ». Et je ne pense pas que ce soit un hasard si le meilleur ministre de l'Environnement que nous ayons jamais eu était un Québécois. Vous aurez deviné que David Suzuki fait référence à Stephen Guilbeault, qui a quitté à la fin novembre 2025 le cabinet du Premier ministre McCarney. Le scientifique n'avait pas encore été informé de ce qu'avait affirmé l'ex-ministre après avoir claqué la porte avec fracas. Entre autres du fait que Stephen Guilbeault a qualifié d'importants pas en arrière dans la lutte contre les changements climatiques et de vente au rabais le récent protocole d'entente sur l'énergie entre Ottawa et l'Alberta. Bravo à lui, a lancé David Suzuki, une fois mis au courant de ses déclarations. Il va sans dire que ce nouvel accord entre Ottawa et l'Alberta et la construction possible d'un nouvel oléoduc vers la côte du Pacifique consterne également l'environnementaliste de la Colombie-Britannique. Il prévoit que le gouvernement de sa province et les communautés autochtones vont barrer la route à ce projet et que McCarney compte là-dessus. Pour David Suzuki, il n'y a qu'une seule option possible, considérer les changements climatiques comme une menace existentielle et y réagir en conséquence. Que recommande-t-il alors désormais au Premier ministre du Canada? Une seule chose, déclarer l'urgence climatique, lance-t-il. Arrêtez de tergiverser. Dans une situation d'urgence, les clivages politiques disparaissent. Face à une telle crise, agir est la seule option. C'était le presque nonagénaire qui nous brasse la cage, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 31 décembre 2025 dans La Presse.